récit réaliste. La bûche des dix mots passants, on va lire ensemble le texte. Alors d'abord, je résume un peu d'abord la structure narrative du récit. Il s'agit d'un récit à cadre. Alors il y a un récit encadrant où il s'agit de Paul, un vieux célibataire, qui se trouve devant le feu ouvert d'une cheminée avec une vieille dame également célibataire. Alors, à un moment donné, une bûche s'élance de la cheminée, et alors Paul, vieux célibataire, dit à la dame, voilà pourquoi je ne me suis jamais marié. Bon, évidemment, la dame, la vieille dame est une figure de lecteur, elle est toute étonnée, et ça provoque un récit, elle est comme une figure de lecteur. Et ensuite, Paul, dans le récit encadré, parle d'abord de l'amitié qu'il avait avec Julien, et ensuite il raconte que Julien s'est marié avec Berthe, et à un moment donné, Julien a demandé à Paul de tenir compagnie à son épouse. Alors pendant cette soirée, Berthe essaie de le séduire, et à la fin de ce récit encadré, il raconte qu'il a failli être pris en flagrant délit. Effectivement, il avait succombé à la tentation, et à ce moment-là, une bûche s'était élancée de la cheminée, et il est sauvé par la bûche. À ce moment-là, Julien rentre, et l'adultère n'a pas été commis. Et il dit, voilà pourquoi il ne s'est jamais marié, parce qu'il veut prouver à la vieille dame que c'est à cause de l'expérience de la perfidie féminine qu'il est resté célibataire. Alors, nous allons y revenir. Alors, Genèse, dans figure 3, il signale plusieurs relations possibles entre récit encadrant et récit encadré. Alors, ici, il y a nettement donc la relation thématique, la bûche, dans les deux cas, dans le récit encadrant et dans les récits encadrés. Il y a la relation explicative, parce que Paul veut expliquer pourquoi il ne s'est jamais marié, pourquoi il est resté célibataire. Il y a la fonction persuasive de Genèse, parce qu'il veut vraiment convaincre son auditrice de la perfidie de la femme comme raison de son célibat. Et évidemment, il y a la fonction distractive. Bon, nous allons voir le récit encadrant, narration hétérodiégétique, récit encadré, narration homodiégétique, je vais y revenir. Comme thème typique des récits de Maupassant, je signale, et là il y a un rapport entre narration et thématique, chez Maupassant il y a toujours le piège de la femme et de l'amour, évoqué avec toutes sortes de métaphores aussi, le piège de la femme et de l'amour. Il y a dans ce récit opposition thématique entre l'amitié masculine opposée à la sexualité hétérosexuelle. Il y a opposition entre l'amour libre et le mariage. Et un beau thème, c'est aussi la communication, parfois verbale, mais dans le cas de Berthe, surtout avec des signes sensoriels et sensuels. Ce qui est important, et c'est là ce que nous allons voir aussi, les stratégies narratives de Paul. Parce que Paul, narrateur, personnage narrateur, veut prouver pourquoi il ne s'est jamais marié. Et nous allons voir justement que sa technique narrative a été efficace et a induit en erreur l'interprétation d'excellents analystes de l'œuvre de Maupassant. Nous allons le voir après. Alors on va parcourir ensemble le récit. Alors, le récit encadrant tisse tout un réseau de relations, d'analogies, mais souvent aussi de contrastes, entre le récit encadrant et le récit encadré. D'abord, il y a le décor, typique comme la pension Vauquer chez Balzac, un décor qui annonce les personnages. Alors d'abord, le récit encadrant qui était hétérodiégétique. Le salon était petit, tout enveloppé de tentures épaisses et discrètement odorant. Dans une cheminée large, un grand feu flambait, tandis qu'une seule lampe posée sur le coin de la cheminée versait une lumière molle, ombrée par un abat-jour d'ancienne dentelle sur les deux personnes qui causaient. Alors là, il y a les décors odorants, le feu, une seule lampe, lumière molle, ça suggère la sensualité. Il n'en est rien dans le récit encadrant, mais c'est le cas dans le récit encadré. On suggère la sensualité, mais ce n'est pas le cas, c'est l'amitié. Il y a le topos de la lumière qui provoque la description des personnages. Alors, il y a d'abord elle, dans le paragraphe suivant, elle, une de ces vieilles adorables, hein, le démonstratif de connivence typique du réalisme, que vous connaissez bien, lecteur. Le parfum de la vieille dame, à la fin du paragraphe, c'est la poudre d'iris florentine qui est typique de la femme du monde. Ensuite, lui. Lui était un ami d'autrefois, resté garçon. Voilà déjà le thème du récit. C'est un blanc dans le texte, dans la théorie des Iser. Pourquoi est-ce qu'il est resté garçon? Il va l'expliquer justement. Un compagnon de voyage dans l'existence, rien de plus d'ailleurs, et là il y a contraste avec le récit encadré, le rapport avec Berthe. Donc il y a l'amitié avec la vieille dame, célibataire, mais il y aura sexualité avec Berthe. Il avait cessé de causer, donc communication verbale, depuis une minute environ, et tout lui regardait le feu, rêvant à n'importe quoi, en l'un de ses silences amis, et là il y a contraste avec le récit encadré, où il y aura des silences embarrassants avec Berthe. Et soudain, une grosse bûche, donc une bûche qui tombe de la cheminée. On peut interpréter la bûche, le feu, comme la sexualité, et ensuite il y a les réactions des deux personnages. La vieille femme, avec un petit cri, se dressa comme pour fuir. On pourrait dire la dame a fui le feu de la sexualité. Alors que lui, il rejetait dans la cheminée l'énorme charbon. Lui, effectivement, il a rejeté la sexualité. Et ensuite, on va voir pourquoi. Quand le désastre fut réparé, une forte odeur de roussi, l'odeur de la sexualité, odeur de roussi, opposée à la poudre d'iris florentine, le parfum de la vieille dame, l'amitié. Et ensuite, à la fin du paragraphe, voilà pourquoi je ne me suis jamais marié. Elle le considéra tout étonné, comme le lecteur bien sûr, donc la dame comme auditrice est une figure de lecteur. Et ensuite, il doit raconter ce récit intérieur, et il y a la transition typique avec le discours métanarratif. Oh, c'est toute une histoire, une assez triste et vilaine histoire. Ensuite commence le récit encadré, homodiégétique, et d'après ma typologie, vous avez vu, il y a deux possibilités maintenant. Focalisation auctorielle avec le jeu narrant, avec le personnage narrateur, et autre possibilité, focalisation du jeu narré, du personnage acteur avec Berthe. Alors, à mon avis, mais je vais l'expliquer, il raconte toujours dans sa focalisation auctorielle, comme vieux célibataire, parce qu'il veut convaincre son auditrice qu'il a resté célibataire à cause de la perfidie féminine. Et nous allons le voir dans les textes. Donc, à mon avis, c'est là la technique narrative, mais je vais essayer de le démontrer dans les textes. Alors, le récit encadré commence avec un préambule. Dans le préambule, il explique que son entourage était étonné de voir que la belle amitié masculine a été rompue à un moment donné, son amitié avec Julien. Alors il va expliquer pourquoi. Au préambule, rupture de l'amitié masculine. Et, oui. Alors il y a tout un passage où il va opposer la sexualité à l'amitié. L'affection jalouse opposée à l'amitié masculine. Bon, vous allez relire ça, il est possible de faire un beau schéma avec l'amitié masculine opposée à la sexualité hétérosexuelle. À la page suivante, enfin, mon ami Julien se maria. Elle était jolie, en haut de la page 354. Une blonde frissotée chez Maupassant, c'est un signe de désir. Peu à peu, je me laissais séduire par le charme doux de cette vie commune. Ensuite, Julien demande à Paul de passer la soirée, de tenir compagnie à son épouse. Alors il dit, je ne serai pas de retour au milieu de cette page, je ne serai pas de retour avant 11 heures, mais à 11 heures précises, je rentrerai. Si on connaît l'œuvre de Maupassant, il veut sans doute tester la fidélité de son épouse. Il va rentrer 2 heures plus tôt. Alors, dès le début, il signale que c'est l'initiative de Berthe. Berthe, c'est la femme perfide. C'est moi d'ailleurs qui ai eu l'idée de vous envoyer chercher, reprit-elle. Je lui serrai la main. Vous êtes gentil comme tout, et j'ai senti sur mes doigts une amicale et longue pression, je n'y pris pas garde. Dans le fragment que j'ai sauté, il oppose justement la pression amicale à la pression passionnelle. Alors là, il y a déjà la pression passionnelle de Berthe. Au fond, ce qu'il joue, c'est qu'il veut toujours montrer que la femme est perfide, que la femme a pris l'initiative. Il raconte dans une optique rétrospective de vieux célibataire pour convaincre son auditrice de la perfidie féminine. Il se présente lui-même comme victime naïve du piège de l'amour tendu par Berthe. Paul se présente donc comme innocente et naïve, et justement, nous allons le voir, il est complètement complice. Hein, mais il y a la technique narrative auctorielle qui, par laquelle il veut se présenter comme victime. Alors ensuite, la dame dit, 355, « Mettez donc une bûche au feu, mon ami, vous voyez bien qu'il va s'éteindre, elle voit bien qu'il n'y a pas de progrès, elle attise le feu de la sexualité. » Un peu plus loin, elle dit, « Il fait trop chaud maintenant, dit-elle, allons donc là-bas sur le canapé. » Ensuite, elle lui dit, « Qu'est-ce que vous feriez si une femme vous disait qu'elle vous aime ?» Donc, sous une forme hypothétique, une femme, et c'est, « Moi, je vous aime passionnément, faisons l'amour. » Alors, ensuite, elle va développer une opposition entre l'amour libre et le mariage, qui au XIXe siècle est un mariage arrangé. Pour que l'amour fût bon, il faudrait qu'il bouleversât le cœur, qu'il soit dangereux, qu'il doit rompre des obstacles sacrés. Et en bas de la page, il dit, je ne savais plus quoi répondre. Et je jetais en moi-même cette exclamation philosophique, ô cervelle féminine, te voilà bien. Alors, moi je me demande s'il a vraiment poussé ce cri comme personnage acteur. J'ai l'impression que c'est plutôt comme personnage narrateur qui veut convaincre, encore une fois, son auditrice de la perfidie féminine. Parce que, vous allez voir la page suivante, comme narrateur, et il montre son indignation morale, mais comme acteur, il a été complice. Elle avait pris en parlant, 356, hein, en haut de la page, elle avait pris en parlant un petit air indifférent, sans ni touche, et appuyée sur les coussins, elle s'était allongée, couchée, la tête contre mon épaule. Hein, mais vous voyez, la complice, il accepte quand même qu'elle mette sa tête contre son épaule. La robe, un peu relevée, laissant voir un bas de soie rouge que les éclats du foyer enflammé par instant. Toujours la thématique du feu, de la sexualité et les signes sensoriels et sensuels de Berthe. Au bout d'une minute, elle dit, « Je vous fais peur, dit-elle, je protestais. » Elle s'appuyait tout à fait contre ma poitrine et sans me regarder, « Si je vous disais que je vous aime, que feriez-vous » Vous voyez, un pas de plus, encore hypothétique, mais maintenant c'est déjà « je ». Et avant que j'eusse pu trouver ma réponse, ses bras avaient pris mon cou, c'est la thématique du piège chez Maupassant, avaient attiré brusquement ma tête et ses lèvres joignaient les miennes, comme s'il n'a pu éviter ses lèvres. Vous voyez, comme acteur, il est absolument complice, mais comme personnage narrateur, il essaie de montrer toujours que c'est la perfidie féminine, que lui, il est innocent. Alors il déclare, « Ah, ma chère amie, je vous réponds que je ne m'amusais pas guère. » Mais ce n'est pas le cas. Hein, dans ses actions, dans son comportement, il est complice. Alors, indignation morale, mais c'est l'optique du narrateur. Quoi, tromper Julien, devenir l'amant de cette petite folle, perverse et rusée, effroyablement sensuelle sans doute, à qui son mari déjà ne suffisait plus, trahir sans cesse, tromper toujours, jouer l'amour pour le seul attrait du fruit défendu, du danger bravé, de l'amitié trahie, non, cela ne m'allait guère. Mais il n'en est rien, il continue. Donc comme acteur, il est complice, comme narrateur, il montre son indignation morale. C'est ça. Absolument. Oui, s'il se répand, là, on va y revenir. Non, cela ne m'allait guère, mais que faire? Imiter Joseph avec la femme de Potiphar dans la Bible. Elle était affolante en sa perfidie, et c'est la raison qui donne pour son célibat la perfidie féminine. Ensuite, le Christ avec qui jette la première pierre, etc. Alors, vous voyez donc, dans son comportement, il est complice. Mais la technique narrative est persuasive et veut convaincre de son innocence, que lui, il est la victime. Ensuite, il y a la bûche, et la bûche le sauve. Julien rentre, et il s'écrit « Je suis libre, l'affaire est finie 2 heures plus tôt », à l'opposé de l'acte d'amour. Oui, mon ami, sans la bûche, j'étais pincé en flagrant délit. Ensuite, il explique donc la rupture de son amitié. Depuis lors, Julien me battait froid. Sa femme, évidemment, s'appelle notre amitié. Hein, donc là encore, perfidie féminine, la belle amitié masculine rompue pour la femme. Et phrase, dernière phrase, « Je ne me suis point marié, cela ne doit plus vous étonner. » Alors ça là, c'est typique de Maupassant, il n'y a pas de réponse de l'auditrice. C'est au lecteur d'interpréter. Alors, Paul croit donc avoir persuadé son auditrice qu'il est resté célibataire à cause de son expérience de la perfidie féminine. Effectivement, dans la réception de ce récit, on voit l'efficacité de sa technique narrative persuasive parce que, par exemple, Louis Forestier, l'éditeur de la Pléiade, dit à propos de ce récit, « Le fait que le narrateur soit un homme âgé donne à l'aventure le poids du sérieux et la valeur de l'exemplarité. » Plusieurs autres critiques signalent que Paul n'a pas voulu devenir l'amant de l'épouse de son meilleur ami par honnêteté. Alors, on a vu dans les textes que son comportement le contredit. Hein, donc, dans l'analyse narrative, on voit, oui, c'est le cas dans son discours narratif, il veut se montrer honnête, alors qu'en réalité, son comportement, il est complice. D'ailleurs, si on lit l'œuvre de Maupassant, c'est tout à fait courant et complètement accepté. Chez Maupassant, il y a beaucoup de ménages à trois à cause des mariages arrangés. Donc, il y a de bons amis et ils partagent l'épouse. Donc, c'est contraire au récit de Maupassant, c'est contraire à toute une série de chroniques de Maupassant. Donc, là aussi, on voit que les critiques ont été dupes de la technique narrative. Alors, c'est intéressant, me semble-t-il, parce que si ce n'est pas par honnêteté, si ce n'est pas à cause de la perfidie féminine, hein, parce qu'il a été complice, quelle est la raison plus profonde dans ce texte? Oui. Oui. D'accord. Donc dans ce cas-là, il s'identifie à son ami. Oui. Mais en général, ça ne gêne pas tellement les maris. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a ce genre de récit chez Maupassant, mais il y a beaucoup de ménages à trois.
Il y a un récit très intéressant chez Maupassant, que moi personnellement j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une femme qui était mariée avec un homme un peu, qui avait une réputation de la religion, et qui est remariée une deuxième fois. Et son nouveau mari, il a harcelé tous les jours, il dit, tu vas pas me dire que tu as été fidèle à ce type, il était con, il était... Il n'a pas été fidèle, elle lui dit si j'ai été fidèle, et puis un beau jour il lui révèle que non, et finalement elle n'avait pas été fidèle et qu'elle moment-là, on voit le deuxième mari, peu à peu, s'identifier au premier, peu à peu s'éloigner de sa femme en la détruisant de plus en plus. Et je trouve que les deux...
Oui, oui, il y a sans doute cette possibilité aussi. Mais il y a une autre raison aussi, c'est dans le texte.
C'est l'attachement de... Il y a l'impression d'avoir été trahi parce qu'on... par Julien quand Julien s'est marié.
Ça joue sûrement, effectivement, la trahison de l'amitié, mais il y a autre chose. Ça joue dans plusieurs récits de Maupassant. C'est la femme sexuellement active, la femme castratrice. C'est elle qui dit « je vous fais peur ». Donc il y a plusieurs récits de Maupassant où c'est l'homme qui prend l'initiative, mais après, c'est la femme qui est beaucoup plus active et qui lui fait peur. Et c'est l'impuissance qui en résulte dans ce cas-là chez Maupassant. C'est la femme qui elle-même est plus active et effectivement, elle lui fait peur. Donc, on pourrait croire aussi dans ce récit que c'est plutôt ça. Louis Ferestier l'a tout à fait accepté, effectivement. Il a dit, oui, il faut quand même une autre interprétation. C'est pas notre idée du XXe siècle de l'honnêteté envers un bon ami, parce que effectivement, ça ne joue pas chez Maupassant. Il y a beaucoup de ménages à trois parfaitement acceptés. Mais il y a plusieurs récits, effectivement, où la femme active rend l'homme impuissant. Oui, c'est l'homme qui commence, mais ensuite la femme qui est plus active et ça fait peur, et ensuite c'est l'échec. Et c'est dans le texte, effectivement, avec Berthe qui le voit. En tout cas, vous voyez que dans un tel récit, et c'est l'intérêt de Maupassant, il y a quand même des couches plus profondes dans un récit à première vue, bon, juste, mais érotique. Il y a quand même une thématique plus profonde qui joue dans ce texte, et en tout cas une technique narrative persuasive qui a induit en erreur toute une série de critiques.
Il avait quel âge quand il a écrit ce
Aucune idée. Aucune idée.
Parce que ça serait intéressant justement de voir s'il avait l'âge du vieux narrateur,
oui,
ou s'il avait l'âge du jeune homme.
Oui, oui.
Comme pour Tolstoy, oui, quand on voit l'attitude par rapport à la femme dans,
oui,
dans la sonate avec Kreutzer, qui est devenue complètement répressive, dogmatique par rapport à ce qu'il écrivait avant du temps d'Anna Karénine.
Oui. Non, je ne peux pas le dire. Non, mais excuse.
Il n'y aurait pas une autre interprétation très naïve, ceci, c'est simplement qu'en dépit de tout ce qu'il dit, il tombe en fait au niveau de cette femme, finalement, elle est restée avec son mari, donc le narrateur décide de rester célibataire, par une sorte de fidélité qui n'ose pas avouer,
oui,
la fidélité à cette femme, donc il est en fait tombé
oui,
en fait, il ne s'en fout pas en fait.
Oui, mais ça joue pas tellement chez Maupassant, l'amour fidèle.
Il n'y a rien dans le texte.
Non,
non,
non.
Il y a un jeu sur le général et le singulier. À partir d'un cas singulier, il en tire une vérité générale sur les femmes et sur la conduite à venir. Donc, il ne dirige pas du tout en sortant d'idéal.
Non, c'est ça.
Il
veut être
absolument fidèle, jusqu'à comme ces jours.
On est bien d'accord là-dessus, il n'y a absolument rien. Sauf peut-être une phrase où. Parce qu'ils ont presque sonné si vous voulez, à part que celui qui n'a jamais senti sur sa bouche le baiser profond d'une femme prête à se donner, jette la première pierre, trois fois, etc. À ce moment-là, ça a été interrompu,
oui,
non pas parce qu'il ne voulait pas lui, mais vraiment parce qu'il
voulait refuser, oui,
mais parce que les circonstances ont fait que ça
s'arrête. Oui. Ça va même plus loin, deux lignes au-dessus, il dit « elle était affolante en sa perfidie ».
Oui.
Donc à la limite, il a perçu tout.
Oui, 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 absolument. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr.
Ça va pousser à me demander ça, en fait,
oui,
pour que ce soit une bonne lecture.
Oui.
C'est peut-être
une... En fait, c'est oui, le souvenir de ce baiser qu'il est, qu'on est cadré à jamais. Parce que ce baiser, il est là pour dire que quelque chose a été consommé, qu'il a été jusqu'au bout, mais qu'il y a quand même il y a
oui,
quelque chose.
Oui, oui,
sinon,
oui,
ça n'aurait pas
oui,
intérêt.
C'est
je veux dire, c'est qu'on a l'impression que, au départ, on a quelqu'un qui a une certaine moralité, qui se défend, et puis peu à peu, cette belle femme séduisante arrive, réussit
oui, oui,
à ouvrir une petite brèche dans
oui,
la carapace
oui,
de cet homme moral,
oui,
et c'est à ce moment-là que les circonstances, je dirais, matérielles, lui surlamisent.
Oui. Oui, mais ça permet quand même plusieurs interprétations. C'est là l'intérêt quand même. Si on lit bien Maupassant, il y a plus de profondeur que la lecture superficielle, rapide, effectivement. Oui, ce serait possible, mais dans ce cas-là, oui, je pense que dans ce cas-là, il y aura encore un autre récit. Hein. Maupassant, ça va juste récit quatrième degré. Hein. J'ai fait un inventaire.
Non, on peut, à mon avis, il suffit d'inclure un roman dans le roman.
Oui.
Sous la forme d'un texte.
Oui, ou bien.
Ça peut plus être une parole alors.
Oui.
Une parole, non, ça.
Oui.
Ça peut être un. Oui, mais alors à ce moment-là, on a un texte là, mais je ne pense pas qu'on aille faire un enchâssement.
Oui, mais on peut quand même. Oui, parce que s'il y a deux narrateurs, il y a quand même un enchâssement. Mais on s'attend à trouver un récit horodigétique. Je ne sais pas s'il y en a des. Ça va jusqu'au récit quatrième degré chez Maupassant. Avec... Ce sont surtout les femmes que j'ai vues qui se trouvent à un niveau narratif inférieur. C'est plutôt l'homme qui raconte en compagnie. Hein, les hommes qui se rassemblent, qui boivent un bon verre, qui racontent des histoires. Alors que ce sont plutôt des femmes qui se trouvent à des niveaux narratifs plus bas, disons, troisième, quatrième,
degré. Oui, mais du point de vue de typologie narrative, ce sont les mêmes types de narratifs.
Oui, oui, absolument. Oui, c'est possible. Aussi de...
Sauf dans le récit encadrant.
Oui.
On peut être
hétérodigétique,
mais
aussi encadré. Oui, mais il y a aussi des récits encadrants homodigétiques.
Non,
mais
oui, il peut être introductif.
Oui,
mais c'est souvent
le cas. Oui, pas toujours bouclé.
Là, on termine sur le
récit
enchâssement.
Oui.
C'est souvent le cas chez l'Armée de Revilly aussi.
Oui. On a bien vérifié quand même, j'ai vu la bourse. Je suis pas là, c'est plus vite.
Merci, je vais mettre pour cet exposé exemplaire, clair, riche en exemples.
Et convivial.